envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Vous êtes wake up ce matin, Claire. Bonjour.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Un grand bonjour également à nos invités. Une nouvelle édition de l'air de jeu qui va vous apprendre un métier, une passion extraordinaire. C'est conducteur de chiens de sauvetage. Et nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Benjamin et Mireille Tissot-Daguette qui sont passionnés par le sauvetage. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous allez, chers auditeurs, pouvoir jouer avec nous. Vous pourrez même, si vous avez envie de poser des questions à nos invités, vous aurez l'occasion de le faire. Ben voilà, j'espère que tous les ingrédients vont vous permettre de passer la plus belle des matinées. En tout cas, le soleil est là. Nous sommes là avec vous. On est très heureux de vous retrouver. Et puis, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec vous, Mireille et Benjamin, pour évoquer donc cette passion. Vous faites partie du Red Dog. Alors, c'est une association suisse pour chiens de recherche et de sauvetage. Quelles sont vos fonctions dans cette association ?
Alors, moi, je suis au sein donc, de Red Dog, vice-président de cette association, qui, je rappelle, est composée uniquement de bénévoles. Vous avez évoqué un métier, c'est avant tout une passion, et puis du volontariat, du bénévolat. Donc je suis vice-président de Red Dog, et puis Red Dog est une structure avec des groupes régionaux, et au sein du groupe régional Vaud-Fribourg-Neuchâtel-Jura, je suis également vice-président.
Et vous, Mireille ?
Alors, moi, je suis responsable de la formation des chiens de recherche de personnes ensevelies, donc dans les décombres, pour le groupe régional Vaud-Fribourg-Neuchâtel-Jura. Et bien sûr, tous les deux, on est actifs en tant que conducteurs de chiens, où on forme notre chien ou même engagés avec notre chien.
Parlez-nous de cette association. Dans quelle mesure est-ce qu'elle intervient et de quelle façon ?
Schématiquement, on pourrait dire qu'on a deux domaines de compétences. C'est la recherche de personnes ensevelies. Donc là, il s'agit de pouvoir localiser des personnes qui sont ensevelies sous des décombres après, par exemple, des tremblements de terre, comme en Turquie en début de cette année. Et puis, on a aussi la recherche de personnes disparues. Donc là, c'est la localisation de personnes qui sont égarées lors d'une promenade en forêt ou en montagne. Ça, c'est nos deux domaines de compétences particuliers.
Et les personnes ensevelies sous la neige, par exemple, est-ce que là, vous pouvez intervenir ou ce sont d'autres pratiques ?
Ça, c'est d'autres structures qui s'occupent de ça. Nous, on est vraiment spécialisés donc, pour la recherche personnes ensevelies dans les décombres.
Donc, vous travaillez avec d'autres associations suisses, lesquelles ?
Alors, Red Dog, on est membre de la Croix-Rouge suisse comme organisation de sauvetage. Donc là, évidemment, on a une collaboration. Et puis, on a, pour ce qui est des interventions, évidemment, les partenaires en Suisse qui sont toutes les forces feu bleu. Et puis, pour les interventions à l'étranger, on est membre de la chaîne suisse de sauvetage. Donc, lorsque la Confédération décide d'envoyer de l'aide humanitaire pour du recherche et sauvetage, les membres qui partent avec leurs chiens, également aussi des appareils techniques, proviennent de notre association. Et puis évidemment, en Suisse, on est également partenaire de l'armée suisse.
L'air de jeu, le défi.
Alors, le défi, vous vous en doutez, hein, il est hyper fastoche ce match.
Celui de dresser son homme à la maison.
Et d'envoyer une photo.
Et d'envoyer une photo, voilà. Ça pourrait être drôle, ça.
Alors Mireille, est-ce que vous voulez nous annoncer les photos que vous aimeriez que les auditeurs nous envoient ? Ils ont pour cela, pour réaliser ce défi, jusqu'à midi moins le quart. Et c'est vous deux qui allez juger la photo qui vous aura le plus marqué, pour laquelle vous auriez un coup de cœur. Je vous garantis que ce n'est pas facile de choisir, mais voilà. Alors, le thème ?
Une photo de son chien. Je pense que le thème est évident. Après, faire place à son imagination.
Voilà, et peut-être des photos un peu rigolotes avec le chien.
Mais oui.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Retour dans l'air de jeu où on parle ce matin de conducteurs de chiens avec nos invités, Claire. Et puis évidemment, comment est-ce qu'on les dresse, comment ça fonctionne, tout ça, c'est quelque chose.
Oui, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, Fantasio et Pooch, hein, qui sont vos chiens, vous avez un labrador, Benjamin, Fantasio, et puis Pooch. Il est où, Pooch ?
Il est derrière, je pense, non?
Ah oui, là, c'est derrière moi. Il est trop chaud. Lui, c'est un épagneul breton.
C'est ça.
En train de se demander ce qu'on fait, là.
Oui, oui.
C'est quoi? Il part tout seul, là, entre eux. Là.
Expliquez-nous, Mireille et Benjamin, comment vous êtes venue cette passion et que vous avez choisi d'un jour de devenir conducteur de chiens de sauvetage.
Alors, c'est Benjamin qui m'a amené dans cette passion, donc je vais le laisser expliquer comment on est arrivé à Red Dog.
Ouais, volontiers. En fait, moi, ça devient maintenant une vieille histoire, mais j'avais environ 16-17 ans et puis je me demandais ce que je pouvais faire au service militaire. Et puis, à travers les recherches, ben, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de devenir conducteur de chiens de sauvetage de milice au sein de l'armée. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça? Dans la famille, on avait toujours eu des chiens et c'est vrai que c'était quelque chose qui me tentait. Et puis, je me suis dit, ben, j'aimerais bien me lancer dans cette aventure. Donc là, heureusement, mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu et puis ils ont cherché avec moi. Et puis, c'est comme ça qu'on est tombé sur l'association Red Dog, ce qui m'a permis finalement de prendre un jeune chien, de déjà commencer à le former au sein de Red Dog, et puis ensuite, avec lui, d'aller faire le service militaire, mon école de recrue, tout à fait normale, mais comme conducteur de chiens de sauvetage.
Et vous, Mireille, est-ce que vous êtes passée quand même par la case école de recrue ou pas du tout?
Non, pas du tout. Moi, je suis tombée amoureuse du soldat puis officier Tissot Daguette quand il faisait son école de recrue.
Surtout du chien, je
ouais.
pense. Hein.
Du chien, oui. Et la formation d'un chien de sauvetage, c'est entre 3 et 5 ans. Donc, l'école de recrue, les quelques semaines qui passent, ça ne suffit pas à former le chien. Et après, on doit continuer à être à Red Dog. Et là, je l'ai accompagné avec son chien Diode durant tous les entraînements. Moi, je faisais figurante et aide pendant 2 ans avant de moi-même prendre un chien et de le former au sein de Red Dog.
Et lorsque vous avez fait votre première mission, Mireille, qu'est-ce que vous en avez ressenti? Qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir?
Tous les entraînements qu'on a faits, ben, ça nous permet de retrouver une personne ou au moins de pouvoir soulager la famille qui cherche un proche. Une de mes premières interventions, c'était avec recherche de personnes disparues en forêt-montagne. Donc voilà, de trouver, des fois, ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, mais on peut au moins annoncer une nouvelle à la famille et de pouvoir aider, d'être toute une équipe à chercher, à travailler pour ça. On sait pourquoi on a mis tous ces samedis, toutes ces heures à la formation, à s'engager. Et je pense que c'est aussi important.
L'air de jeu jusqu'à midi. Avec Claire et Florian.
Et ce matin, eh bien, effectivement, on a teint de compagnons dans les studios, là, avec Claire qui est en train d'essayer de faire
bien,
monter sur
Fantasio,
la table. Fantasio, le chien qui est avec nous. On a Mickaël qui est avec nous aussi.
Mais bonjour Mickaël, comment allez-vous? Vous allez bien? Elle est bien,
Fantasio? Bonjour.
Mais ces chiens, ils sont vraiment craquants.
J'ai deux chiens aussi, des Jack Russell.
Ah, ils sont choux, les Jack Russell aussi. Est-ce que c'est des chiens qui pourraient éventuellement faire du sauvetage?
Bon, disons, on n'a pas de limite de race, hein, donc tous les chiens peuvent être amenés à ça. Après, évidemment, dans certaines races, il y a des prédispositions, il y a des lignées qui ont été sélectionnées pour le travail. Ce n'est pas impossible, non.
Quel est le nom de vos chiens, Mickaël?
Farine et Elliot.
Vous avez choisi votre jeu, le voici, le voilà.
L'air de jeu, le portrait chinois.
Je vais vous donner des indices. Avec ces indices, il faudra découvrir un chien de fiction. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Si j'étais une race de chien, je serais un dog allemand. Si j'étais un personnage, je serais Samy. Si j'étais un défaut, je serais gourmand, mais également peureux. Qui suis-je?
Alors, Scooby-Doo-Bidou.
Ah, bien joué.
Oui.
Bravo. Scooby-Doo-Bidou.
Il est aussi craquant, ce chien-là. Est-ce que vous aimiez voir les aventures de Scooby-Doo, Mickaël?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Ah,
c'était mon époque.
Oui, puis quand on a des enfants, ils aiment bien. C'était vraiment un chouette dessin animé. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, Mireille et Benjamin, de Scooby-Doo?
Oui, j'ai effectivement des souvenirs. J'ai surtout l'image des méchants qui portent 3 ou 4 masques successifs. Ouais.
Est-ce qu'il y a un chien de fiction que vous appréciez, pour lequel vous avez eu peut-être un coup de foudre dans votre jeunesse?
Oui, moi, dans ma jeunesse, c'est peut-être un peu cliché, mais ce sera Rex, le chien policier.
Ah,
c'est vrai que quand j'étais enfant, ça m'a marqué. Et je peux pas exclure que ça a eu après une influence sur ce que j'ai voulu faire plus tard.
Il était chou Rex, oui. Redog. Et vous, Mireille?
Je dois dire que Rex, je n'ai pas loupé un épisode dans ma jeunesse non plus. Donc.
Alors nous sommes deux. Voilà. Et vous, Rex, vous avez aimé Michael?
Oui, un peu. Je serais plus sur internet. Hein.
Ah oui, oh, ça c'est plus Milou. Ancien ça.
Avec Milou, ouais, mais là des chiens plus petits aussi.
Oui. Bonne journée, merci d'avoir joué, à bientôt, merci Michael.
À bientôt, au revoir.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Claire, elle est occupée avec les chiens là, c'est incroyable. Elle est tombée amoureuse là.
Ah mais j'ai vraiment eu un coup
comme
de cœur.
Comme Mireille est tombée amoureuse de Benjamin.
Moi j'ai un coup de cœur pour... Fantasio et Pooch, ils sont vraiment adorables. Toujours avec nos invités Benjamin et Mireille Tissot-Daguette pour parler de leur passion et du travail qu'ils font, les missions qu'ils accomplissent également avec leurs chiens. Ils sont donc conducteurs de chiens de recherche et de sauvetage. Parlons de la formation parce que j'imagine, vous l'avez évoqué tout à l'heure Mireille, ça prend du temps, hein. Alors, si quelqu'un a envie de se lancer, il vous écoute, il se dit « Ah ben tiens, c'est quelque chose auquel j'aimerais consacrer du temps », comment ça se passe ?
Alors déjà, il faut avoir un chien. Et puis, pour commencer, il faut que le chien il soit sociable, qu'il aime les gens, qu'il a envie d'interagir avec l'humain particulièrement et qu'il ait déjà des bases d'obéissance, donc le retour, les positions, marche au pied, enfin des ordres de base. Et le conducteur, lui, doit avoir un bon physique. Ben, ça demande pas mal de conditions physiques. S'il veut faire de la recherche en décompte, pas avoir peur du noir, pas être claustrophobe, parce que ben on recherche avec nos chiens, mais il faut bien rechercher des gens, donc on se met aussi nous-mêmes dans les décombres pour faire la victime.
Vous prenez des risques?
Non, on prend pas de risques, c'est toujours des endroits sécurisés, mais par contre, faut pas avoir peur d'être enfermé dans un petit espace et dans le noir, et puis devoir attendre quelques heures peut-être pour que le chien vienne avec le travail, quoi.
Et le chien, il doit avoir quel âge ?
Alors, plutôt entre 1 et 3 ans, parce que la formation, elle dure entre 3 et 5 ans, et à partir de 10 ans, il est déjà à la retraite, il ne peut pas partir à l'étranger, et 12 ans, la retraite totale, même pour les interventions en Suisse. Donc, si on additionne, il faut que ces 5 ans, qu'il puisse quand même avoir quelques années de travail devant lui. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Mais avant 9 mois, une année, ça sert à rien. Il faut aussi que le chien puisse vivre sa vie de chiot, fasse ses expériences normales.
Est-ce que par hasard, vous avez participé à la recherche du monsieur qui était perdu là, dans la région du Grand Saint-Martel récemment, c'est l'année passée, je crois, il me semble, ou il y a 2 ans. Une personne s'était perdue, un promeneur s'était perdu dans la forêt, puis ils l'ont retrouvé grâce à un drone et puis grâce à l'infrarouge, donc à la chaleur du corps. Est-ce que ce genre de recherche, vous les faites aussi?
Oui, on les fait aussi. Après, en général, la police va faire ses recherches avec ses moyens. Et puis, si ce n'est pas concluant, nous appelle pour qu'on puisse quadriller le secteur avec nos chiens.
Mais peut-être que ça vaut la peine aussi de mentionner, profiter qu'on ait eu autant d'auditeurs pour rappeler qu'on a aussi un numéro d'alarme. Donc, si quelqu'un a un proche qui est disparu dans ces circonstances, il peut contacter le 0844 441 144. Et puis, on peut, si la situation le permet évidemment, intervenir et ça, sans frais pour la famille.
Donc, si quelqu'un a disparu, on n'est pas forcément obligé de passer par la police ou comme ça, on peut directement faire appel à vos services.
Alors bien sûr qu'il faudra d'abord appeler la police, c'est ce que les gens vont faire, hein, mais nous on peut venir subsidiairement, donc complémenter aux besoins. Et puis nous, si on intervient, évidemment, on avisera la police. Hein.
Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de personnes justement qui auraient envie de devenir conducteur ?
Alors je vais être très honnête, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par faire ça. Mais c'est vrai que c'est un engagement qui est très dur parce que ça prend beaucoup de temps. Mireille l'a évoqué, hein, 3 à 5 ans de formation. Les entraînements, c'est un rythme hebdomadaire. Donc on consacre en gros 1 à 2 journées par semaine pour ça, complètement bénévole. Et donc c'est difficile de trouver des gens qui, sur la durée, arrivent à s'engager. Mais s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, je les enjoins à aller voir le site redog.ch et aller voir s'ils sont de notre région, le groupement Vaud-Fribourg-Neuchâtel, et puis là, ils obtiennent aussi un petit peu plus d'informations. Donc, beaucoup d'intéressés, et puis évidemment, après, pour aller jusqu'au bout, c'est un parcours semé d'embûches.
10h, midi, Envie de prendre l'air de jeu.
Il y a un putsch qui se balade dans le studio. Elle va nous faire un putsch, là, comme dans les pays.
Oui, mais moi je vois ce qu'il a repéré, Fantasio. Là, j'ai une boîte, c'est la boîte magique, hein, ça. Il y a plein de bonnes choses dedans. Alors, on a vu la formation pour les chiens. Quels sont les chiens de race le plus propices pour faire de tels sauvetages? Est-ce qu'il y en a déjà?
Alors, toutes les races sont bonnes. Après, il faut un chien plutôt de taille moyenne, on dit entre 10 et 40 kilos. Après, il y a des exceptions aussi. Mais ce qui est plus courant à Red Dog, ben, c'est tout ce qui est Retriever, Labrador, Golden, Flatcoat, et tout ce qui est berger, donc Border Collie, berger malinois ou berger allemand. Après, ben, il y a aussi, comme Pooch, des chiens de chasse, Espagnol ou bien Braque. Et on a même eu un petit Spitz qui a fait de la recherche en décombres. Donc, toutes les races sont possibles. Après, il y a bien sûr, des fois, c'est plus facile que d'autres, et des sélections qui ont été faites pour des chiens de travail.
J'ai quelque chose pour toi, Fantasio. Viens là. Oups, oh mince, je l'ai fait tomber. Va chercher, viens chercher. Ça sent bon.
Du coup, c'est Pooch qui se régale.
Bon. C'est Pooch qui se régale. Donc, on a parlé donc les races de chiens. Et puis, pour les personnes qui aimeraient devenir conducteurs, là aussi, est-ce qu'il y a des critères?
Bah, il y a des critères, avec la chaîne suisse de sauvetage, il faut pas être à l'âge de la retraite, donc il faut avoir moins de 65 ans. Et c'est aussi quelque chose d'assez physique, hein. Si on pense, par exemple, le test de recherche de personnes disparues en forêt-montagne, ben, c'est 3 recherches d'une heure et demie dans la montagne. Donc, ça veut dire entre 5 et 6 heures de marche avec un sac à dos rempli de matériel et tout ce qu'il faut pour le chien et à boire aussi. Donc faut pas avoir peur de marcher toute la journée avec un sac à dos ou dans les décombres de ramper et une bonne condition physique, c'est la base.
Et j'imagine que de nuit vous faites aussi des exercices parce que du sauvetage, c'est également dans la nuit qu'on peut en faire.
Oui, c'est aussi dans la nuit. Ben, si on part avec la chaîne suisse de sauvetage, Benjamin est parti en Turquie avec Fantasio, ben, c'est du 24 heures sur 24. Donc, il y a deux équipes qui se relaient, 12 heures une, 12 heures l'autre. Donc, bien sûr, il y a forcément du travail de nuit.
Là, derrière nous, on a une photo, on voit Fantasio. Alors, en plein travail, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo, Benjamin?
Oui, volontiers. Ça, c'est une photo qu'on a prise il y a quelques mois. Je ne sais plus exactement, c'était quand on a mimé, voilà, on avait fait une semaine d'entraînement sur un site de décombres en France. Et puis bon, là, on voit Fantasio justement qui se déplace sur les décombres à la recherche d'une émanation d'odeur humaine. Donc là, dans le cadre de notre exercice, on a caché une victime volontaire pour l'exercice. Et puis là, Fantasio va donc parcourir les décombres à la recherche d'odeur humaine. Et puis, dès qu'il aura repéré une odeur humaine, il va essayer d'aller se rapprocher le plus de cette odeur humaine, hein, là où elle est la plus forte. Et à cet endroit-là, il va aboyer, il va gratter, il va nous montrer précisément avec son nez que c'est à cet endroit qu'il y a le plus d'odeur humaine. Et puis, on travaille vraiment pour qu'il aille au plus proche, parce que ensuite, ben, dans les interventions, dans les décombres, après viennent les forces de sauvetage, évidemment. Et puis, il faut qu'on s'assure d'être le plus proche possible de la victime.
Incroyable. Mais est-ce que, comme dans les films, là, on fait sentir, je sais pas moi, un t-shirt au chien et il part chercher la personne?
Alors, c'est une question qui revient souvent. Alors non, alors pour ce qui est des décombres, je pense que ça paraît évident que si on fait ça, ben finalement, il y a les effets personnels de la personne dans la maison qui s'est écroulée. Donc là, ça ne nous avancerait à rien. Là, on recherche vraiment une odeur humaine d'une personne donc vivante. Et puis pour ce qui est de la recherche de personnes disparues, comme l'exemple qu'on mentionnait avant, donc recherche en forêt, en montagne d'une personne égarée, à ce moment-là aussi, on ne va pas lui faire sentir un objet spécifique. Le chien va nous montrer toute personne humaine qu'il retrouve ou alors un objet, un sac à dos que la personne aurait perdu dans le cadre de sa disparition.
Ça m'amène à une question un peu plus technique. Un chien, il arrive à repérer un humain à combien de mètres, à combien de centaines de mètres?
Alors, ça va dépendre des conditions. Hein. Alors, c'est
s'il
la
a pris
réponse,
sa douche ou pas ou
Non, ça va dépendre en fait des conditions atmosphériques, du vent. Mais c'est clair que si on est dans un terrain relativement dégagé, comme en moyenne montagne, si vous avez le vent qui est favorable, l'odeur humaine va être déplacée sur une centaine de mètres, en tout cas. Donc là, le chien va pouvoir très vite la repérer. Et puis pour les décombres, peut-être, je te laisse...
Pour les décombres, ben, après, ça dépend aussi de la structure du bâtiment, comment, en fait, l'air peut sortir, donc l'air après l'odeur, comment l'odeur peut être transportée dans les décombres et sortir. S'il y a de l'odeur qui sort, ben le chien va nous le montrer. Donc ça peut être plusieurs mètres de profondeur, le chien il va pouvoir sentir et nous dire, ben là il y a de l'odeur, je sens qu'il y a quelque chose qui sort. Et ben ça c'est, en fait ça dépend beaucoup de si c'est compacté ou bien si c'est des grandes pièces aérées, mais plusieurs mètres, il n'y a pas de souci.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Benjamin et Mireille Tissot-Daguet sont les invités de l'air de jeu qui est consacré ce matin aux conducteurs de chiens de sauvetage. Vraiment une passion qui, ben, finalement, si vous n'étiez pas là, beaucoup de personnes, ben, on ne les retrouverait plus. C'est vrai que c'est quand même depuis très longtemps qu'on parle de ces chiens. On parlait tout à l'heure de retrouver des humains lors de catastrophes telles que des séismes comme ça. On évoquait aussi de faire sentir un t-shirt. Alors, de quelle façon le chien, quand il doit retrouver des humains, il sait ce qu'il doit retrouver ?
Alors en fait, ça vient de la formation et puis de la généralisation qu'on fait. D'abord, on va l'apprendre à aboyer simplement, d'aboyer sur nous. Et ensuite, on va commencer à mettre des personnes coincées derrière quelque chose. Et puis lui, il voudra avoir son jeu. Du coup, il va aboyer. On va le récompenser pour cet aboiement. Et ensuite, cette personne, elle va être de moins en moins visible. On va la changer perpétuellement. Et en fait, c'est comme un jeu de cache-cache. En fait, on lui apprend à faire un jeu de cache-cache et à retrouver la personne qui est disparue. Donc après, il va aboyer toujours la personne qui est disparue. Et le but, c'est c'est un instinct qu'il a envie. Il a envie de rechercher parce qu'après, il sait qu'il va avoir son jeu s'il retrouve cette personne et puis qu'il l'aboie. Donc en fait, il va juste chercher... S'il y a un décombre, il se dit « Ah, trop bien, chouette, on va jouer à cache-cache. » Et puis, je vais pouvoir utiliser mon nez pour la localiser, aller au plus proche possible, aboyer. Et comme ça, je recevrai mon jeu. En fait, c'est vraiment juste une énorme partie de cache-cache pour le chien.
Tout ce que vous faites, c'est justement sous forme de jeu et de récompense, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Parce que ben, c'est comme nous. Si on n'a pas de salaire, on ne fait pas notre travail. Oui. Donc, lui aussi doit être récompensé. Et c'est soit de la nourriture, soit un jeu, soit les deux. Des fois, il y a des jouets avec de la nourriture dedans. C'est ce que préfère le chien. Et c'est des jouets qu'ils ont droit que pour ce travail. Donc, c'est vraiment le Saint Graal pour le chien d'avoir ce jouet. C'est son jouet préféré. Il ferait tout pour l'avoir.
Est-ce que le chien conducteur de sauvetage est comme, par exemple, le chien qui aide chez les personnes malvoyantes? Quand on lui met le harnais, il sait qu'il est au travail. Est-ce que c'est la même chose pour les chiens de sauvetage? Est-ce qu'ils arrivent à faire la différence entre on peut jouer et on est, entre guillemets, au travail?
Oui, alors ils font la différence. Pour ce qui est de la recherche personnes disparues en forêt, montagne, ils ont un peu à l'image des chiens d'aveugles, un harnais avec la petite clochette.
Ah, il vient.
Et puis vous voyez que Fantasio, il vient directement parce qu'il sait ce que ça signifie. Il sait que si je lui mets ça, il va pouvoir aller au travail. Et vu que tu le disais, finalement, c'est pas que du travail, c'est aussi un jeu pour eux. Eh ben, il vient, il en a envie parce qu'il a été justement renforcé positivement. C'est quelque chose pour lui qui est très plaisant. Et puis ben, pour la recherche en décombre, le chien, on a vu sur la photo tout à l'heure, il n'a rien du tout sur lui. Il n'a pas de harnais, il n'a pas de collier. On ne veut pas qu'il se prenne dans un fer à béton, par exemple. Mais là, effectivement, il y a aussi un conditionnement qui est fait. Et le chien, il comprend directement quand il arrive sur la zone, qu'il voit ses décombres. On a le conditionnement, nous, on a le casque, etc. Donc, il sait qu'il va devoir travailler.
Mais lui, il n'a pas de protection ? Bon, vous me direz, c'est peut-être pas facile de mettre un casque sur la tête d'un chien, mais...
Alors, il n'a pas de protection. Ce qu'on pourrait penser, c'est des protections aux pattes. Mais en fait, si on lui met des chaussons, il perd une énorme mobilité. Donc, d'avoir les pattes nues, ça lui permet de pouvoir marcher, avoir de l'équilibre, de pouvoir sentir aussi les surfaces qui touchent. Après, bien sûr, on a des chaussons si jamais c'est vraiment extrêmement dangereux. Mais on essaye qu'il n'ait rien du tout. C'est encore là où il se blesse le moins, en fait.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et on parle aujourd'hui de conducteurs de chiens avec les deux chiens dans le studio, Fantasio et...
Pooch.
Pooch, voilà, c'est un Fantasio.
L'espagnol breton.
Il tourne autour de la boîte à biscuits, là. Hein. C'est un malin, hein, lui.
Ouais, c'est le secret de la loyauté. Hein.
Ah, voilà.
Nous sommes toujours avec Benjamin et Mireille Tissot-Daguette, qui sont donc conducteurs de chiens de recherche et de sauvetage. Ils nous présentent leur passion. Et on évoque maintenant avec vous, Mireille, l'entraînement, parce que ben voilà, pour aller sur le terrain, il faut bien que ces chiens s'entraînent. Est-ce que vous avez des endroits précis? Est-ce que vous recherchez des fois des nouveaux endroits également?
Alors oui, on a des endroits précis où on a les zones de protection civile, les zones de l'armée qui sont en fait des décombres fabriqués. Mais on cherche aussi souvent des endroits pour avoir différents endroits pour qu'ils puissent généraliser. Donc on a quelques partenaires avec qui on peut aller s'entraîner dans des gravières ou dans des déchetteries qui nous permettent d'avoir des choses qui sont en fait proches de la réalité. Bah, souvent dans la réalité, ça ne ressemble pas forcément à un terrain de protection civile parce qu'il y a tous les habits des personnes, les frigos, enfin il y a de la nourriture. Et en fait, les déchetteries sont souvent, ou les tas de bois qu'on trouve dans les déchetteries sont souvent des choses qui sont bien plus proches de la réalité. Donc on recherche souvent et on recherche aussi des vraies démolitions. Donc on a quelques partenaires avec la ville, on avait pu s'entraîner sur la démolition de Métallor ou la démolition du Bouchon à Neuchâtel. Enfin, on a pu avoir ces opportunités-là et on cherche toujours des endroits concrets qui se rapprochent le plus de
la réalité
pour pouvoir s'entraîner. Donc on est ouvert à toute proposition.
La photo qui est derrière nous, c'est où? C'est dans un entraînement ou c'est vraiment sur le terrain?
Alors ça, c'est une intervention, c'est en Turquie.
Où vous êtes allé
Voilà, ouais, on est intervenu là en début de cette année, exactement. Ouais.
Là, j'imagine que ça n'a pas dû être évident tous les jours de retrouver ces personnes. C'était un travail de longue haleine pour vous et pour Fantasio.
Oui, alors c'est évidemment très astreignant aussi pour le chien, parce que avant d'arriver jusque sur le site de l'intervention, il y a évidemment le vol en avion. Il y a également après se déplacer en bus jusque sur le site vraiment de la catastrophe. On a cherché ici à Antakya, dans le district d'Hatay. Et puis ensuite, tu l'as expliqué tout à l'heure, Mireille, nous, on est en engagement là avec la chaîne suisse de sauvetage, sachant aussi que Redog est parti parallèlement avec un autre partenaire en intervention. Mais là, on était avec la chaîne suisse sauvetage, puis on travaille en rotation de 12 heures. Donc effectivement, on est sur site, sur les décombres pendant 12 heures, on fait travailler les chiens. Ensuite, peut-être les chiens nous montrent quelque chose, on peut discuter avec les sauveteurs vont commencer à déblayer. Ensuite, on repasse les chiens, on recontrôle, etc. C'est vraiment un travail d'équipe avec les sauveteurs, donc un travail d'équipe, nous, avec notre chien, évidemment. Entre l'équipe avec les chiens et puis avec les sauveteurs qui après eux passent évidemment de nombreuses heures à percer les dalles en béton, un travail aussi de longue haleine.
Est-ce qu'il y a d'autres sauveteurs, conducteurs de chiens de sauvetage d'autres pays qui sont venus par exemple prêter main forte?
Oui, alors il y a eu finalement de nombreux pays qui sont arrivés. Nous, dans cette zone-là, en tout cas quand on est arrivé, on était une des premières teams internationales sur place, donc on avait tout de suite beaucoup de travail. Et puis ensuite, au fur et à mesure des jours, il y a d'autres teams internationales qui sont arrivées et puis qui ont pu après gentiment prendre le relais pour la suite.
Et sur la photo suivante, on vous voit, vous, Mireille, avec Pooch.
C'était l'été passé, lors d'une semaine d'entraînement international qui a lieu à Genève, à Épaisse, dans le décombre. C'est vraiment un village d'exercice où c'est un village détruit, si on veut bien, avec différents décombres. Et là, on s'entraînait avec d'autres pays pour pouvoir voir les différentes manières de former les chiens, de pouvoir partager. Et puis là, c'est Pooch qui a trouvé la victime. Donc, on voit juste son jouet sortir. Il est gris sur gris, mais il est en train de tirer son jouet. Et puis, il vient de localiser la victime qui était entre les deux dalles.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Toujours avec nos invités Benjamin et Mireille Tissot-Daguette pour parler de leur passion qui est donc le conducteur de chiens de recherche de sauvetage. Ils sont très impliqués dans, on l'a vu, l'association Red Dog. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est différent quand vous intervenez en Suisse qu'à l'étranger?
Oui, alors c'est évidemment un contexte qui est un petit peu différent. En intervention en Suisse, on peut être amené à intervenir après des coulées de boue, des éboulements, comme on a eu à Bondo, comme on a eu à Chamozon, aussi lors d'accidents sur des chantiers, par exemple à Schwitz, on avait dû intervenir aussi. Donc ça, c'est des spectres d'engagement qui sont possibles, mais évidemment, ça dure en Suisse 2-3 jours. Logistiquement, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on doit se projeter à l'étranger. On peut le faire, donc, comme on l'a évoqué avant, avec la chaîne suisse de sauvetage, quand la Confédération décide d'envoyer l'aide d'urgence avec tous les membres de la chaîne suisse de sauvetage. Donc, il n'y a pas que Red Hog, évidemment, il y a la DDC, l'aide humanitaire, il y a l'armée suisse, etc. Et puis nous, on peut aussi se projeter à l'étranger avec un autre partenaire qui s'appelle GEA. C'est une organisation humanitaire turque spécialisée dans le sauvetage, mais qui dispose de très peu moyens de localisation. Et puis, on peut intervenir avec eux pour leur apporter cette composante en plus. Et puis, c'était dans ce cadre-là, par exemple, qu'on était intervenu au Népal en 2015, après le tremblement de terre, où j'étais donc intervenu avec mon précédent chien, Diode.
Finalement, c'est un travail qui se fait donc avec le chien. J'imagine qu'il faut être vraiment en symbiose avec son animal pour que le travail puisse se faire.
Alors, en fait, le chien suit une formation, mais le maître aussi. Donc, ça veut dire que si on part, moi, je ne peux pas partir avec le chien de Benjamin et Benjamin ne peut pas partir avec mon chien. C'est vraiment intime. Et il y a toute une composante de guidage, bien sûr, mais aussi de lecture du chien, de savoir, OK, là, il se comporte comme ça, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il a envie de descendre plus bas, il faut que je l'aide. Ça veut dire qu'il a une odeur, mais que, enfin, voilà, il y a beaucoup aussi d'interprétation, de lecture du chien. Et ça demande de vraiment connaître énormément son chien. Et bien sûr, que ce soit la recherche en forêt-montagne ou en décombre, ben aussi, c'est possible de devoir prendre l'hélicoptère, de devoir faire des choses que le chien, en général, n'aime pas trop. Par exemple, à Bondo, les personnes ont dû être élitreillées sur place parce qu'il n'y avait plus de moyens de communication. Donc là, le chien va aller dans l'hélicoptère, être treillé. Donc le chien, il doit aussi avoir une confiance aveugle en son maître et d'être capable de faire tout ce qui est possible, tant qu'il est avec son maître, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un lien de confiance énorme.
Alors, quand vous êtes en action, en pleine action, à la recherche de personnes, est-ce que vous avez des mots-clés que vous dites à votre chien ou vous êtes là en lui disant « cherche, cherche, cherche ».
On va le prendre, on va un peu le conditionner. Donc, on va le prendre, on va lui dire « ah, mais on va aller chercher ». Et puis, à ce moment-là, après, une fois qu'il est conditionné, qu'il a « ok, je vais aller chercher », et qu'il est prêt, on le laisse aller chercher et nous, on intervient le moins possible. Parce que ben, si on lui donne des ordres ou on lui fait des choses, ben, en fait, on peut l'induire en erreur. Donc, l'important, c'est qu'il soit le plus indépendant possible. Après, ben, s'il y a des dangers, on va lui dire non, non, tu ne peux pas aller là, il faut continuer là. Mais on va être le plus observateur possible et le moins intrusif dans son travail. Lui, il sait très bien faire son travail. Une fois qu'il est engagé, il sait ce qu'il doit faire et ben nous, on doit juste être là pour sa sécurité, pour l'observer. Et puis, si jamais il a besoin d'aide, mais c'est tout.
Et quand vous retrouvez une personne, j'imagine que la personne doit être toute surprise de voir le chien et vous également.
Alors, dans les décombres, on n'a jamais direct. C'est les sauveteurs qui vont avoir la chance de pouvoir vraiment être en contact avec la personne. Mais en forêt montagne, c'est ce qui arrive. Et en effet, ben, en général, même si quelqu'un n'aime pas trop les chiens, c'est quand même une surprise positive de voir quelqu'un de vivant d'arriver et de pouvoir enfin être retrouvé.
Et pour vous, j'imagine que ça doit être une satisfaction que vous partagez, bien évidemment, avec Pooch et avec Fantasio. On ressent quand même de la fierté.
Oui, qu'on partage avec Pooch ou Fantasio. Enfin, Pooch est encore en formation, mais quand ça sera le cas. Mais surtout avec toute l'équipe. Ben, c'est un travail de toute une équipe. Rien que la formation, ben, en fait, on peut pas former. Moi, je peux pas me dire, ah, je vais former un chien en recherche de décombres. J'ai besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi. Donc, tout le groupe régional, tout Red Hog, quand il y a une personne qui est trouvée, c'est tout le monde qui a trouvé cette personne et c'est vraiment très important. Et dans les décombres, c'est aussi tous les sauveteurs. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais de trouver une personne, en fait, ça nous dit, ben, voilà, toutes les heures qu'on a mis là-dedans, tout l'engagement pour ce chien, mais pour tous les chiens qu'on forme, ben, en fait, il vaut la peine.
L'air de jeu avec Claire. et Florian.
J'ai à côté de moi Fantasio, il est adorable, je lui tends son petit joujou.
Essaye de mettre le doigt à la place du joujou.
Non. Nous sommes toujours avec Benjamin et Mireille Tissot-Daguette, qui sont donc, comme on l'a dit tout au long de cette matinée, conducteurs de chiens de sauvetage et de recherche. On évoquait donc tout à l'heure le travail à l'étranger. Est-ce qu'il arrive que parfois, il y ait des échecs où on ne retrouve pas forcément des gens tout de suite?
Oui, alors je ne définirais pas ça comme des échecs. C'est vrai qu'on n'est pas toujours amené à pouvoir retrouver la personne. On parle ici des engagements à l'étranger. Ça peut être aussi des interventions suisses, par exemple, quand on recherche une personne égarée. Il se peut qu'on ne la retrouve pas. Si je prends l'exemple de l'intervention au Népal, là, on n'a pas forcément retrouvé de personnes vivantes. Par contre, notre action permet aussi de soulager la famille. Ça, j'ai pu le voir sur le terrain. Les gens sont quand même reconnaissants qu'on soit là, qu'on aide, qu'on fasse de notre mieux. Puis effectivement, si on cherche dans un ancien bâtiment qui s'est effondré, que nos chiens ne marquent aucune présence d'odeur humaine d'une personne qui serait vivante, évidemment, c'est en soi une mauvaise nouvelle pour la famille, mais ça permet aussi une certaine forme de soulagement. Et ça, je crois aussi que c'est important. On ne retrouve pas toujours forcément, mais ça ne veut pas dire que l'action est inutile.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rechercher des animaux qui auraient été, je ne sais pas, ensevelis lors d'un tremblement?
Non. Alors, nous, on ne recherche pas les animaux, que ce soit ensevelis ou que ce soit dans la nature, un chat, un chien qui serait perdu. Ça, c'est des choses, on n'a pas cette compétence-là. Pour nous, c'est la recherche donc, de personnes.
Est-ce que vous avez une anecdote qui vous est arrivée une fois lors d'un sauvetage, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, quelque chose qui vous a marqué?
Bon, il y a beaucoup de moments marquants quand on fait ce travail-là, évidemment, dans les interventions. Pour ce qui est de moi et Fantasio, effectivement, la chose la plus récente, c'est l'engagement en Turquie. Puis là, il y a beaucoup de bons moments, mais il y a aussi beaucoup de moments qui sont durs. Et puis souvent, ils se côtoient et souvent, en l'espace de quelques secondes. Donc voilà, là c'est pas toujours simple, et puis c'est grâce à la force de l'équipe, encore une fois, qu'on arrive à surmonter ça.
Et pour vous, Mireille?
J'ai pu participer à une intervention en Suisse où un jeune était porté disparu, un pré-ado, et de pouvoir le retrouver vivant et de voir qu'il, quand il retrouve ses parents et sa famille, ben, je dois dire que c'est un des plus beaux moments que j'ai pu vivre avec l'association.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Bonjour Alex, comment allez-vous?
Bien.
Est-ce que vous aimez les chiens?
Oui.
Est-ce que vous en avez un à la maison?
Oui, j'ai un boxer.
Ah, ils sont choux les boxers. Ah, ils sont rigolos, hein?
Ah oui.
Comment il s'appelle?
Aiko.
Eh bien, vous allez jouer avec votre fils Luca. Voici votre jeu.
L'air de jeu, le blind test.
Il faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses pour remporter cette carte cadeau. Mais franchement, c'est facile. Donc, on l'a dit, c'est le verbe sauver que l'on va entendre dans des extraits de chansons. Comme par exemple... À quelle chanteuse doit-on ce titre sorti en 1986? Écoutez.
Elle évoque aussi les couleurs de Neuchâtel Xamax.
Oui, en rouge et noir. Vous avez trouvé, vous, Benjamin et puis Mireille?
Moi, j'ai l'avantage d'avoir l'écran avec la réponse.
Ah,
Alex, on vous écoute.
Voilà. J'ai plus pas bien la chanson, mais je ne sais plus la chanteuse.
Ah, ah. Elle avait une coupe
c'est
un
Jeanne
peu...
Jeanne Mas.
Alors, Jeanne Mas, vous dites? Ouais, c'est ouais. Jeanne Mas, effectivement. Allez, attention, c'est parti. Deuxième titre. Quel est le titre de cette chanson?
Partir effacé sur le Gange, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur.
Daniel Balavoine avec le mot sauver.
Sauver l'amour.
Bravo! Deuxième point. Allez, c'est parti, on y va.
Là, c'est pour le fun. Parce
voilà,
que...
mais vous avez votre carte cadeau en poche. Cool, quelle merci. Chanteuse est l'interprète de ce titre?
Je ne sais pas comment faire, mais je dois sauver ma vie. De nous deux était de trop.
Voilà, c'est plutôt Lucas qui pourra répondre à cette question.
Ouais, c'est une chanteuse de nouvelle génération. Vous l'avez, vous Mireille?
Alors, pas du tout, non.
Vous ne l'avez pas, vous? Si je vous dis qu'elle a, dans sa chanson qui a été un carton, elle associe le disco au coquelicot.
C'est pas Oshi?
Non.
Ah, ça, ça se boit.
Non, c'était Juliette Armanet.
Ah ouais, alors on n'avait pas.
Merci d'avoir joué avec nous, Axel.
Merci, de rien.
À bientôt, passez un bon dimanche.
10h, midi. Envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Eh ben, je peux vous dire, Valérie, qu'ils ont transpiré hein, pour les photos. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé des photos de chiens rigolotes. Il y en a des très drôles que vous verrez évidemment cet après-midi.
Oui, bien évidemment, on fera une galerie photo avec tous les clichés que vous nous avez envoyés par WhatsApp. Ouf. Et puis, on aura également toutes les photos que vous nous avez fait parvenir, Benjamin et Mireille, et des photos que vous avez pu découvrir derrière nous sur les écrans. Enfin, vous verrez tout ça cet après-midi sur rtn.ch. Mais bon, on accueille Valérie maintenant.
Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, dites-nous tout. Moi, j'ai encore pas vu la photo. Je suis la seule à pas avoir vu la photo. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Comme ça, je suis comme les auditeurs qui nous suivent pas forcément en vidéo.
Alors, c'est mon chien Spike, un beagle de 6 ans et demi.
Voilà la photo maintenant.
on était en pique-nique au barrage du Clauzon. Il a mis une casquette sur la tête, voilà.
Mais excellent, excellent.
Il manque plus que la binge, là.
Voilà, exactement, oui.
Les lunettes.
On peut tout lui faire à ce chien, il est extraordinaire.
C'est quoi comme race?
Un beagle.
Ah oui, le beagle.
On voit le flegme du beagle.
Voilà.
Est-ce qu'il est un petit peu... Est-ce que c'est un peu comme le Basset Hound?
Non.
Mais il a un petit peu... un peu cette tête, un peu comme ça, non?
Oui, alors il a un peu cette tête, mais il a les oreilles plus courtes. Par contre, c'est plus vigoureux qu'un Basset Hound. C'est pas ma sœur qu'en avait un, mais alors c'est très, très flemmard, le Basset Hound.
Oui, alors je confirme. J'ai aussi dans ma famille quelqu'un qui a un Basset Hound. Je peux vous dire qu'il est, il est pas triste, hein, lui.
N'empêche que la photo, elle est chouette. Hein. Ciel
elle
bleu,
est vraiment magnifique. Hein.
En montagne, là, c'est joli.
En tout cas, les auditeurs pourront la découvrir cet après-midi sur notre galerie photo. Et puis vous, eh bien Valérie, c'est une carte cadeau lundi de 20 francs que vous remportez. En tout cas, merci d'avoir participé à notre défi. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission concernant les conducteurs de chiens de sauvetage qui étaient donc nos invités, Benjamin et Mireille Tissot-Daguette.
Il a pas l'air de vouloir conduire votre chien sur la photo. Là.
C'est... pas trop. Mais par contre, il va quand même à la recherche aux champignons.
Ah, intéressant.
Ah,
pas
voilà,
mal.
Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des truffiers aussi. Ah oui, ma sœur a un chien qui va chercher les truffes.
Avec un beagle, je me demanderais s'il mange les truffes quand il les trouve. Mais...
alors, les truffes, je n'ai jamais essayé, mais les volets, il va les chercher. Mais il ne les mange pas.
Ah, c'est bien.
Pas mal. Merci beaucoup, Valérie. On vous souhaite un tout bon dimanche. À bientôt. Merci. Au revoir.
À bientôt, merci.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et les chiens, c'est bientôt l'heure de la promenade, parce qu'on va conclure gentiment cette émission.
Et oui, nous avons eu le plaisir ce matin de recevoir Benjamin et Mireille Tissot-Daguette, qui sont conducteurs de chiens de recherche et de sauvetage. Ils sont impliqués ensemble dans l'association suisse Red Dog. Vous avez apporté un petit peu du matériel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et j'imagine que ce sont des choses qui sont vraiment toujours prêtes si on vous appelle pour une catastrophe.
Oui, bah, je pense qu'on peut parler... on a quelque chose qui nous permet de prendre du vent, enfin qui fait de la fumée. Comme ça, on peut voir d'où vient le vent. Donc, le chien, il va utiliser son nez. Donc, des choses qui ne sont pas du tout visibles pour nous. Et nous, on doit savoir comment, en fait, il peut lire. Donc, on va se dire, là, on voit le vent de la climatisation dans le studio. Mais on va pouvoir dire, OK, l'air vient d'ici. Donc, il peut prendre l'odeur depuis là ou dans les décombres de dire, OK, ça sort de par là, et de mieux comprendre comment il fonctionne et savoir ce qu'ils sont en train de montrer aussi.
Et puis l'appareil qui est à côté de vous, Mireille.
Alors ça, c'est un GPS. Donc ça va d'ailleurs avec la Chabrac pour la recherche de personnes disparues en forêt montagne. Et on a des secteurs. Donc on est avec un chien, un conducteur et quelqu'un qui aide derrière et qui a le GPS et qui va regarder la zone qu'on doit couvrir, où est-ce qu'on se situe dans le terrain, est-ce que le chien a bien couvert toute la zone. Donc il faut être quand même avoir quelques connaissances en lecture de cartes et puis savoir se servir d'un GPS.
Alors, je propose que vous le prêtiez déjà à Claire, parce que si elle se perd au Crédit Loc, elle pourra peut-être retrouver sa maison.
et puis une trousse de premiers soins,
de premier secours, oui. Alors en recherche de forêt-montagne, si on retrouve la personne, on va être directement en contact. Donc, il faut pouvoir faire les premiers secours, donc appeler l'ambulance ou l'hélicoptère et faire les premiers secours sur la personne. Donc, on a des formations de premiers secours. Et pour tout ce qui est recherche de personnes ensevelies, il y a toujours une infrastructure. Ce n'est pas nous qui allons faire les premiers secours. Mais par contre, il y a fortement des blessures, tant sur le chien que pour les humains. Donc, pouvoir soigner une patte qui est ouverte, ou bien chez nous, quelqu'un qui s'est blessé. On a une formation pour pouvoir s'auto-soigner, faire les premiers secours de l'équipe et puis de notre chien aussi.
Moi, j'ai envie de vous demander, Pooch, comment ça se passe avec lui? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Parce que lui, il est en plein apprentissage.
Oui, il est en plein apprentissage et il y a plusieurs tests à passer, un cursus de tests. Donc là, on a commencé les premiers tests pour la recherche de personnes ensevelies. Et puis après, il y a encore une année devant nous pour arriver jusqu'à l'engagement. Mais il progresse bien.
Et il a quel âge, lui?
Lui, il a 3 ans.
Donc, il a encore du temps. Et Fantasio, il a quel âge, lui?
Fantasio, il a 6 ans maintenant.
Ah, il a...
Un bon quarantenaire, quoi.
Ouais, là, il est bien. Là, il est au top de sa forme. Il a encore une bonne forme physique. Et puis, il a l'expérience qu'il a accumulée maintenant. Donc,
Un vrai mal, quoi.
Est-ce qu'avec avec Pooch, il s'aide un petit peu? Est-ce qu'il le tire, comme on dit, un petit peu?
Alors, en fait, ils ne cherchent pas ensemble et on ne les forme pas ensemble, mais des fois, ils font par mimétisme. Et en fait, il y a tout l'à côté qui est très important. Donc, il y a des moments d'attente ou de pouvoir prendre le bus, de toutes ces expériences-là. En fait, il peut regarder comment fait Fantasio et puis il apprend beaucoup aussi à vivre aux côtés de Fantasio.
Bon, moi, je vais vous demander si je peux avoir
le GPS.
Voilà.
Non, harnais.
Le harnais.
Ça, mais ça fonctionne, ça fonctionne, pour, ça fonctionne pas avec les mecs. Hein.
Oui, ouais, il vient vers moi.
Ça l'active.
Voilà.
Claire, la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, l'air de jeu sera dans la mer commune. Nous serons du côté du Loc, exactement. Et vous pourrez venir jouer en direct avec nous. On fera l'historique de l'ancienne poste du Loc. Et pour en parler, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Cédric Duprat. Et on vous parlera un petit peu
de ce bâtiment mythique.
Son historique, c'est dimanche prochain dès 10h sur RTN en direct du Loc. Yes!
Merci à vous deux d'être venus. À bientôt.
Merci Mireille. Merci Benjamin. Merci à vous, chers auditeurs. Et à bientôt. Bisous.
Des bisous sur vous et prenez soin de vous.